BPM, élections législatives 2024.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée aux élections législatives 2024 dont le premier tour est prévu ce dimanche. Nous recevrons l'intégralité des candidats de la 9e circonscription et ce matin, je suis en compagnie de Bruno Millienne, député sortant, représentant du Modem et dont la suppléante est Angela Leroy. Bruno Millienne, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, une question que nous avons posée à l'intégralité des candidats. Qu'avez-vous pensé du choix d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale le soir des élections européennes le 9 juin dernier ?
Alors, je vais être très franc avec vous. Ça a d'abord été la sidération, la stupéfaction, la colère, parce que j'avais plein de dossiers qui étaient en cours avec les ministères, du coup pas à l'Assemblée. Et puis après tout ça, on réfléchit et on se dit, on se remémore les 2 ans qu'on a passé à l'Assemblée nationale, dans ce, excusez-moi, ce bordel ambiant et permanent, dans lequel on avait énormément de mal à travailler, énormément de mal à faire des textes aussi efficaces qu'on l'aurait voulu. Et on se dit que de toute façon, on n'avait pas le choix, ce serait tombé un jour ou l'autre. Donc autant le tomber maintenant, le faire tomber maintenant, cette dissolution. D'autant que si le président ne l'avait pas fait, je pense qu'on aurait passé 2 mois à entendre les oppositions dire « Ah oui, il a perdu les européennes, aucune réaction, il se moque des Français, il aurait dû démissionner. » Donc voilà. Pour toutes ces raisons-là, bah finalement, on y va. C'est pas l'idéal pour nous, c'est l'idéal pour aucun candidat. Mais au moins, ça aura le mérite de la clarification, notamment vis-à-vis des électeurs, mais vis-à-vis des politiques aussi. Il va falloir qu'ils arrivent à se situer une fois cette nouvelle Assemblée élue.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter à ces élections législatives ?
Bah parce qu'on n'abandonne pas le combat en race campagne. Et moi, il y a une chose que je ne peux pas voir, imaginer dans mon pays, c'est de voir le pays tomber dans les mains du Rassemblement national. C'est impossible, c'est culturellement impossible, c'est familialement impossible. Ils ont beau s'être acheté une respectabilité, on les appelle les costards-cravates à l'Assemblée, le fond reste le même, ils restent xénophobes et racistes. Et moi qui ai vécu toute mon enfance à l'étranger, dans ma famille, le mot racisme n'existe pas, donc ça sera toujours le combat de ma vie.
On va parler aussi de votre programme. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes lignes ?
Ben, contrairement, moi ce que je reproche un petit peu aux oppositions... Le président, certes, a pris tout le monde de court, mais si j'avais été dans l'opposition, j'aurais enfermé tout le monde dans une pièce pendant 72 à 96 heures et j'aurais présenté un programme finançable, qui plaise aux Français, mais finançable. Et les 2 programmes qui nous sont proposés, on a vu d'ailleurs à l'approche de l'élection, côté Rassemblement National, on enlève des pans entiers du programme parce qu'ils savaient qu'il n'était absolument pas finançable et que ça allait creuser la dette. Là, la dette reste présente. D'ailleurs, on n'a pas non plus le financement. Enfin, Jordan Bardella, il a fait sa conférence de presse ce matin. Il n'a jamais parlé du financement. Là, sur les premières mesures qu'il veut mettre en place, c'est à peu près 10 milliards tout de suite et 20 milliards dès l'année prochaine de déficit supplémentaire. On n'a pas le financement en face.
Vous avez l'impression qu'on fait des effets d'annonce ?
Mais c'est tout à fait des effets d'annonce parce que, je suis désolé, mais alors le programme du nouveau Front Populaire, là, on est dans des financements stratosphériques. Puisque je ne vais pas parler en milliards, parce que ça ne dit rien aux gens. Quand on met trop de zéros, au bout d'un moment, ils ne voient pas ce que ça représente. Mais ça représente tout simplement le budget du Portugal. Le budget du Portugal. 300 milliards d'euros, c'est le budget du Portugal. Avec des mesures aussi iconoclastes que je vais augmenter le SMIC de 200 euros, mais dans le même temps, je vais bloquer les prix. Vous m'expliquez comment un entrepreneur fait pour augmenter le SMIC de 200 euros ? Si derrière, il n'a pas la possibilité de répercuter ça sur le prix du produit qu'il vend. C'est juste pas possible. Donc, c'est quelque chose qui va malheureusement conduire à la faillite de beaucoup d'entreprises et à plus de chômage. Et je n'ai pris que cette mesure-là. On peut prendre une mesure sur l'école qui va parler aux gens, la gratuité totale de l'école. Et vous vous rendez compte ce que ça représente ?
On parle des gratuités des cantines aussi.
Hein. Non, ils ont été très précis là pour le coup. Cantine, transport scolaire, périscolaire, et fournitures scolaires. Moi, j'en ai discuté un petit peu avec le maire des Mureaux, qui a une ville quand même d'importance. Il sait ce que c'est que le budget, ne serait-ce que de la cantine scolaire. Et il dit, moi, en tant que mairie, je ne peux pas l'assumer. Et je ne sais pas comment l'État fera pour me dédommager. Donc voilà, tout ça, c'est Noël avant l'heure, avec des gens qui n'ont pas grand-chose en commun. Vous avez vu que sur les derniers événements, notamment ce qui s'est passé à Courbevoie, il y avait eu 2 communiqués de presse différents. Un de l'ensemble du nouveau Front Populaire hors LFI et un de LFI. Parce qu'ils n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur le côté antisémite. Moi, quand Aurore Laluc a déclaré à la conférence de presse qu'elle était contente parce qu'ils avaient trouvé un point d'accord sur l'antisémitisme, je vous jure que mon sang n'a fait qu'un tour. Hein. Comment les socialistes, les sociodémocrates en sont venus au point de négocier sur l'antisémitisme ? Enfin, vous dites ça à n'importe quel social-démocrate. Moi, j'ai voté à gauche depuis que je suis en âge de voter jusqu'au moment où j'ai rencontré Bayrou en 2007. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Enfin, Mitterrand doit se retourner dans sa tombe. Delors aussi. Enfin, tous ces gens-là, et même avant, enfin, ils se sont comparés à Léon Blum, souvenez-vous. Mathilde Panot, plus apte à gouverner que Léon Blum, parce que soi-disant, elle avait été députée plus longtemps. Elle avait juste oublié que Léon Blum avait été chef de la SFIO pendant 16 ans. Voilà. Mais cette alliance contre nature, on le voit. Moi, je les ai prévenus. J'aurais dit, mais Jean-Luc Mélenchon, à la fin, il vous la fera à l'envers. Il vous la fera à l'envers. On voit déjà les problèmes arriver, parce que, évidemment, la répartition des circonscriptions va faire que la France Insoumise sera le parti majoritaire au sein de cette union de la gauche à l'Assemblée nationale. Ils l'ont dit et redit. Le Premier ministre, si on a la majorité absolue, sera décidé par le parti majoritaire de cette union de la gauche. Olivier Faure dit l'inverse, mais ils vont faire comme d'habitude, ils vont se coucher. Donc je trouve dommage qu'en ce moment de responsabilité important que le président demande aux Français et aux politiques, on soit capable de produire d'un côté un programme qui est totalement xénophobe, raciste, avec l'abrogation du droit du sol, avec la différenciation sur les binationaux. Enfin, franchement, vous êtes binational, franco-espagnol, il y a un problème ? Ou franco-maghrébin, il y a un problème ? Enfin, je suis désolé, toutes les valeurs qui ont fait la France depuis des années, ce pays des Lumières, on va le réduire à un pays xénophobe et raciste. Ça, c'est juste pas possible. En plus, avec un programme qui ne tiendra pas la route. Moi, j'ai vu le programme sur l'école de Bardella, mais plus aucun prof ne rentre en classe. Je vous le dis. Ils sont tous en grève. Ils sont tous en grève. Donc, c'est terrible. Moi, j'en appelle aux gens qui sont un peu raisonnables. Il faut qu'ils comprennent que ces deux programmes-là ne sont pas applicables. C'est pas que je suis en train de vanter notre bilan, mais on a quand même fait des choses. Moi, quand j'entends les gens dire, en 7 ans, il n'y a rien eu, on a fait que détruire la France, mais j'en viens me poser la question de savoir si c'est pas Emmanuel Macron qui est responsable de la disparition des dinosaures. Sérieusement, quoi. Les gens ont oublié que pendant la crise Covid, leurs salaires ont été payés par l'État, que les entreprises ont été sauvées par l'État, qu'avant cette crise Covid, on avait fait une chose dont personne ne parle plus parce que gâteau avalé n'a plus de saveur. Quand on a baissé les cotisations salariales jusqu'à 1,8 SMIC, pour ceux qui étaient en bas, c'était 17 euros net. Donc au SMIC, c'était 17 euros net de plus. Pour ceux qui étaient en haut, c'était 200 euros net de plus. Personne ne l'a vu. Moi, je veux que vous me donniez des patrons qui sont capables d'augmenter leurs salariés de 200 euros net à 1,8 SMIC. Et puis pour terminer sur les 1600 euros net du SMIC, très bien si on peut le faire. Si la France avait les moyens, il n'y a aucun souci. Mais le problème n'est pas là en réalité. Le problème, il est sur le fait qu'on n'arrive jamais, les petits patrons n'arrivent pas à passer la barre des 2000 euros net pour payer leurs salariés. Pourquoi ? Parce qu'après, ils payent les charges plein pot. Et 96% des entreprises qui emploient la majeure partie des salariés en France, ce sont des TPE, PME. Elles ne peuvent pas se le permettre. Donc, on a travaillé avec le MoDem depuis un an et demi, sur une gradation des baisses de charges des patrons pour qu'on puisse essayer de monter la facilité d'augmentation jusqu'à 2005, 3000 euros net. Ben, je suis très content de voir que le Premier ministre l'a repris dans son programme.
Pour revenir, vous avez parlé hein, du coup là du pouvoir d'achat. On s'est basé nous sur les préoccupations des Français via un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD qui était sorti le 6 juin, juste avant les élections européennes. En première position était donc le pouvoir d'achat dont vous avez parlé. En seconde position arrive l'immigration avec 36%. Vous avez aussi un peu abordé le sujet.
Bah, l'immigration, il y a un problème d'entrée d'immigration illégale dans le pays. Ça, on ne peut pas le nier. Il faut le combattre absolument. Et en cela, j'invite les gens, s'ils ont encore un peu de temps, à s'intéresser au pacte asile-immigration qui a été voté en Europe, parce que faire croire qu'on va mettre un douanier tous les mètres à la frontière française, c'est juste pas possible. En revanche, ce qui a été décidé, ça a été 7 ans de travaux hein, pour que les 27 soient d'accord. Ce qui a été décidé, c'est de faire le tri, j'aime pas ce terme, mais j'en trouve pas d'autre, à l'entrée des migrants en Europe. On connaît les points d'entrée. Et là, vous faites rentrer ceux qui ont vocation à rester, soit parce qu'ils ont des contrats de travail et des choses comme ça, et ceux qui n'ont pas vocation à rentrer, vous les renvoyez tout de suite. Il n'y a pas d'autre manière de faire aujourd'hui. En tout cas, il y a sûrement des choses plus efficaces, mais c'est la plus efficace qu'on ait trouvée. Après, il faudra encore améliorer le système, mais il faut bloquer à l'entrée de l'Europe, à l'entrée des pays. Vous avez bien vu quand il y a eu le débat Gabriel Attal, Jordan Bardella. Bah Bardella, sur l'immigration, il a fini par s'effondrer. Il a fini par dire, bah oui, non, on sera obligé de faire des contrats. Bah oui, parce que sinon, vous n'avez plus personne pour tailler la vigne, parce que sinon, vous n'avez plus personne pour ramasser les fraises, parce que sinon, vous n'avez plus personne pour ramasser les abricots. Bah voilà, il y a un moment, il y a là, il y a ce qu'on peut dire quand on veut le pouvoir et la réalité de l'exercice du pouvoir qui est complètement différente.
Là, c'est ce que vous faites depuis 2022, puisque vous étiez député depuis 2022. Qu'est-ce que vous avez accompli, on va dire, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez souhaité mettre en avant pendant ces deux ans?
Alors, ce qu'on a accompli, que les gens ont oublié, je vous ai parlé tout à l'heure de l'augmentation des salaires des gens avec la baisse des cotisations salariales. Ce qu'on a accompli aussi, un truc pour les femmes, tout simple. Beaucoup de femmes qui sont divorcées, qui se retrouvent seules avec des enfants, avaient des ex-maris indélicats qui ne payaient pas les pensions alimentaires. Ben aujourd'hui, elles vont directement à la CAF, elles se font payer leur pension alimentaire, et puis l'État se retourne contre les maris indélicats. Bon, c'est pour vous donner quelques exemples, mais quand même, 2 500 000 chômeurs en moins. Ça, je suis désolé, les chiffres attestent tous. Pratiquement 500 entreprises industrielles, la réindustrialisation française. Moi, j'ai travaillé sur la loi industrie verte. Je sais ce que ça mène derrière. Tout ça était en marche. Alors évidemment, tout n'était pas parfait. Nous, les premiers au Modem, on a beaucoup râlé parce qu'on n'écoutait pas nos mesures de justice fiscale, comme la taxe sur les superdividendes, la taxe sur les rachats d'actions ou la taxe sur les superprofits. C'est mon président de groupe, Jean-Paul Mattei, qui l'a proposé à l'Assemblée. On n'a pas été suivi par le gouvernement, on le regrette, ce qui fait qu'aujourd'hui, Jean-Paul Mattei est surnommé par l'opposition le Che Mattei. Voilà. Nous, en fait, le Modem, on est la jambe gauche, quelque part, de cette majorité présidentielle. Et je regrette qu'on n'ait pas été écouté sur un certain nombre de points, mais dire que rien n'a été fait, c'est juste un scandale.
On va faire un point aussi sur le local dans le court temps qui nous reste. La maison d'arrêt à Magnanville, on en avait parlé quand vous étiez venu. Quelle est votre position sur ce sujet ?
Ma position ne variera pas. Je ne peux pas être celui qui dit qu'il nous faut plus de places de prison simplement pour que les prisonniers soient traités humainement dans les prisons dans lesquelles on les enferme. Parce que là, on va se retrouver... D'ailleurs, je pense que on est très mal classé en termes de droits des prisonniers en France. Je ne peux pas supporter que la prison de Bois d'Arcy ait un taux d'occupation de 164% et que tout d'un coup, après avoir accepté le projet pendant 2 ans parce que le maire voyait que ça allait lui rapporter un petit peu d'argent, tout d'un coup, devant la population qui se lève, il tourne casaque à Magnanville pour dire qu'il est contre, sur une prison qui, encore une fois, est une maison d'arrêt. Il faut que les gens sachent qu'une maison d'arrêt, ce ne sont pas des gens qui ont été condamnés, ce sont des gens qui sont en attente de condamnation, donc il n'y a pas que des dangereux. Et en plus, tous les arguments qui ont été donnés, ce ne sont absolument pas prouvés. Du type, votre maison, son prix va baisser. C'est pas vrai. Aller partout où il y a des prisons, c'est faux. C'est faux. Tout simplement faux. Donc après, je comprends les mois. Je comprends la frayeur. Je comprends les fantasmes. Je comprends tout ça. Mais c'est à nous, les élus, d'expliquer aux gens que non, ça va pas se passer comme ça. Et encore une fois, nous avons étudié la pige, hein, les services de l'État qui sont là pour étudier les sites sur lesquels on peut mettre une prison, ont étudié tous les sites qui ont été proposés par l'association, 58 au total, avant de dire, bah, désolé, on ne peut la mettre que là. Donc on ne peut pas avoir d'un côté des élus qui, au niveau national, et je pense aux Républicains, enfin ce qu'il en reste, qui n'arrêtent pas de réclamer 70 000, 80 000, 90 000 places de prison, et quand ça arrive sur leur territoire, ils disent, ah ben non, pas chez moi. Tout petit peu de cohérence, donc moi je vais rester cohérent, même si ça me coûte des voix. Même si ça me coûte des voix. Je ne vais pas dire ce que les gens veulent entendre, tout simplement parce qu'ils ont envie de l'entendre. Je dis la réalité des choses, et la réalité des choses, c'est qu'on ne peut pas plaider pour plus de places de prison et dire non quand la prison s'installe sur notre territoire.
Bruno Millienne, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette interview sera rediffusée à 13h aujourd'hui. À 8h30, nous recevrons également Dina Badiop, candidate de la 9e circonscription pour le Nouveau Front Populaire. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast, élections législatives. À très vite sur BPM.
BPM, élections législatives 2024.